Facile. J'aimerais d'abord remercier les organisateurs pour cette invitation d'être avec vous. J'aimerais vous saluer chaleureusement et fraternellement. Vous dire aussi que c'est toujours un petit peu intimidant de se trouver devant les frères et les sœurs. C'est rassurant, mais oui, c'est une expérience. Donc ce matin, nous allons parler de réconciliation et de mission. Et surtout ce matin, je vous invite à un parcours biblique où nous allons situer la réconciliation et la mission dans le grand projet de Dieu. Et dans un deuxième temps cet après-midi, nous allons nous poser des questions sur le contexte dans lequel se déroule la mission aujourd'hui, ici et maintenant. Et mon point de départ et aussi d'arrivée est le suivant. Lorsque nous parlons de mission, nous parlons de réconciliation. Et lorsque nous parlons de réconciliation, nous parlons aussi de mission. Et en ce qui concerne les deux termes, nous devons les vérifier à la lumière de l'Écriture, ce que nous voulons faire ce matin. Vous savez, être missionnaire implique une certaine compréhension biblique du projet de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'être tous des théologiens, mais nous ignorons la théologie, la Bible, à nos risques et périls. Les premiers grands missionnaires étaient les apôtres, les disciples qui avaient passé 3 ans avec le Seigneur. Et quiconque lit les épîtres de Paul se rend compte qu'il avait une profonde connaissance de l'Écriture et du projet de Dieu. Ainsi, ce matin, nous allons faire un parcours. Si vous avez une Bible, tant mieux. Sinon, vous pouvez éventuellement noter les passages et y revenir après. Et donc, je vais commencer avec l'un des textes les plus cités lorsqu'il s'agit de décrire et de comprendre la mission de l'Église, Matthieu 28. À partir de verset 18, vous le connaissez. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, dit Jésus aux disciples. Allez donc de toutes les nations faire les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Une chose est claire, ce texte évoque la mission. « Allez donc !» Mais s'agit-il de réconciliation dans ce texte? Je pense que oui, car il est question de toutes les nations. Mais ça deviendra plus clair au fur et à mesure que nous avançons. Quand nous disons mission, nous pensons annonce de l'Évangile, nous pensons invitation à la conversion. Tu es pécheur, Christ est mort pour toi, repens-toi, accepte-le comme sauveur et tu seras sauvé. J'ai grandi avec ce message et je pense vous aussi, c'est votre cas. Mais il faut savoir que depuis un certain temps dans l'histoire de l'Église, surtout depuis la réforme protestante, l'Évangile est surtout axé sur l'individu et son salut. Martin Luther posait la question, comment puis-je trouver un Dieu de grâce? Et au Moyen-Âge, il existait une tendance à insister sur l'accomplissement de certaines œuvres religieuses, des prières, des pèlerinages, des pénitences, pour gagner son salut. Et face à une telle compréhension de l'Évangile, la réponse de Luther est juste et bonne, et nous la maintenons. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu via notre foi en Christ. Nous ne pouvons rien faire pour mériter notre salut. Cela nous semble normal. C'est notre point de départ. Et souvent, donc, lorsque nous lions mission avec la réconciliation, nous aurons tendance à privilégier un texte comme Romains 5, 8 à 10. Pour parler de la réconciliation entre Dieu et l'individu. Romains 5, 8 à 10. En ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Et puisque maintenant nous sommes sauvés, justifiés par son sang, à plus forte raison, serons-nous sauvés par lui de la colère. Si en effet, quand nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Ou bien, encore 2 Corinthiens 5, 18, tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Dieu par le Christ, avec lui par le Christ, et nous a confié le ministère de la réconciliation. Ces versets nous sont très connus. Ils nous viennent, je pense, spontanément lorsque nous pensons à la mission, lorsque nous pensons à l'évangélisation. Mais je vais vous étonner peut-être en suggérant que là, c'est une lecture protestante, évangélique et peut-être individualiste de ces textes. Et j'aimerais suggérer de revenir au premier contexte de l'Écriture, car les questions que posait Martin Luther n'étaient pas forcément les questions auxquelles répondaient l'apôtre Paul et Jésus. Luther trouve une réponse juste aux questions de son époque, mais nous aurions tort de projeter le contexte des réformateurs sur la Bible. Et puis notre culture française fait de nous des individus individualistes, cartésiens, je pense, donc je suis. L'existence de l'individu est la base même de tout. Et nous allons le voir, si Dieu s'intéresse au « je » et au « moi », c'est vrai, ne me faites pas dire que ce n'est pas important, il s'intéresse autant, peut-être même plus, au « nous » et à sa création entière. Et ce que je propose ce matin, c'est de retravailler la question de la réconciliation dans son premier contexte, c'est-à-dire le contexte biblique, avant de poser la question de sa pertinence pour nous aujourd'hui. Le contexte du Nouveau Testament, si nous regardons de près, est d'une certaine manière assez différent de ce que vivait un Martin Luther. En fait, Jésus et Paul avaient affaire à des gens qui étaient très sûrs d'être sauvés, puisqu'ils étaient enfants d'Abraham, puisqu'ils étaient circoncis, puisqu'ils observaient le sabbat. Jésus essuyait des critiques sévères parce qu'il s'associait à des pécheurs, ce qui implique que ceux qui critiquaient Jésus ne se considéraient pas comme des pécheurs. Et si vous lisez l'épître de Paul aux Romains, son grand discours sur le péché de tous et pour convaincre les Juifs qu'eux aussi sont pécheurs. Les Juifs savaient que les autres étaient pécheurs, mais eux, peuple élu, enfants d'Abraham, étaient choisis, sauvés par la faveur de Dieu. Et lorsqu'il évoque les Juifs dans ses épîtres, Paul n'écrit pas à ceux qui essaient de gagner leur salut. Ils se savent sauvés par l'élection. Ils avaient les signes, la circoncision, le sabbat, des règles alimentaires qui montraient qu'ils faisaient partie du peuple choisi. Et au lieu de considérer l'élection comme une responsabilité missionnaire, le peuple considérait l'élection comme un privilège. Regardez-nous, nous sommes meilleurs que les autres. On est à cette époque dans le peuple élu, comme à certaines époques, on est ménonite. Et à ces mêmes personnes, Paul rappelle le grand projet de Dieu, tel qu'il est formulé dans l'Ancien Testament, tel qu'il arrive jusqu'à l'époque du Christ. Quel est ce projet de Dieu? Quel est ce projet de Dieu? Deux textes d'abord, mais le projet de Dieu est la restauration la réconciliation de sa création, d'une création touchée profondément par le péché, par le mal. Voici donc deux textes qui résument ce projet. Colossiens 1, 19 et 20. Car il a plu à Dieu de faire habiter en Christ toute la plénitude, écoutez la suite, et de tout réconcilier par lui et pour lui, et sur la terre et dans les cieux, ayant établi la paix par le sang de sa croix. Vaste projet, hein, la réconciliation de tout, par le sang de la croix. On voit à peu près la même chose dans Éphésiens 1, à partir du verset 9. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, son plan, le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement. Réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Vaste projet. Réconcilier tout, mener tout sous un seul chef, réunir. Le projet de Dieu est vaste. Il concerne sa création. On pourrait dire le projet de Dieu, c'est création, nouvelle création. Moi, toi, vous, nous, nous nous trouvons là-dedans, mais le cadre est beaucoup plus grand. Et donc, pour expliquer ce que Paul essaie de nous dire ici, je reviens aux trois grands moments du projet de Dieu, ce que tout étudiant en théologie apprend un jour, création, chute, rédemption. C'est classique, mais on va mettre un peu de chair et d'eau sur ces notions. Et on va voir que ces notions concernent l'univers, le monde, et pas simplement moi. Donc, il y a d'abord la création. Les deux premiers chapitres de la Genèse posent le cadre du projet de Dieu. Et ça, c'est important. C'est le cadre. C'est le monde. L'univers. Voici là où Dieu va agir. Dieu crée un monde et il y place l'humanité. Ce qui veut dire que Dieu n'est pas égoïste, Dieu ne veut pas être seul, Dieu crée de l'espace, il crée des êtres avec qui il veut entrer en relation. Notre Dieu est un Dieu qui n'est pas jaloux, qui n'est pas égoïste, qui veut être en relation. Et il crée même l'homme et la femme à son image pour vivre en relation, pour vivre en alliance. Le monde est créé bon. Il n'est pas à mépriser, car c'est là que nous avons à vivre. Le mal, contraire à toutes les autres religions presque, le mal n'est pas là dès l'origine. Le mal s'introduit après, nous allons voir, et l'homme a une certaine responsabilité dans cette affaire. Le mal, la violence, l'injustice ne sont pas là à l'origine. Et avec la création, nous voyons que l'activité humaine, être en famille, avoir des enfants, cultiver la terre, ce sont des choses que Dieu confie à l'homme. Cela fait partie de l'intention de Dieu. Donc vivre dans le monde avec certaines tâches, cela fait partie de la création. C'est le cadre dans lequel Dieu nous place. Nous ne sommes pas des platoniciens qui pensent que seul l'invisible est réel. Nous vivons dans un monde, nous avons des corps, nous vivons en relation. Autrement dit, le salut, c'est pas seulement dans mon cœur ou seulement dans l'au-delà invisible que cela se passe, mais aussi ici. Et maintenant, dans le monde que Dieu a créé, dans le monde dans lequel Dieu nous a placés. Et nous allons voir que cette création ne va pas disparaître. la création va être renouvelée. Création, chute. Après la création déclarée bonne, arrive la chute, l'introduction du mal, du péché, de la mort dans le monde et dans l'histoire. Et assez souvent, nous avons une lecture très individualiste du côté du mal et du péché. Depuis la chute, je suis pécheur, tu es pécheur. Et dans une telle perspective, la mission consiste d'abord à amener un individu perdu à la conversion. Je ne vais pas nier cela. Sans nier que chaque être humain est pécheur ayant besoin du salut, la Bible montre que le péché a des conséquences bien au-delà de l'individu et de l'intérieur. Le péché, le mal, dépasse l'individu et il y a des conséquences énormes. Il suffit de lire les premiers 11 chapitres de la Genèse. Il y a des conséquences au sein du couple. Ton désir te poussera vers ton homme et lui te dominera. Conséquence de la chute. Le sol sera maudit à cause de toi. Conséquence, disons, écologique. Le monde est déréglé. Fratricide. Caïn tue son frère. Violence, méchanceté. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multiplie sur la terre. La terre s'est corrompue devant Dieu et s'est remplie de violence. Domination, écologie, fratricide, méchanceté, violence. Et on arrive au 11e chapitre où les hommes veulent atteindre Dieu en construisant une ville avec une tour qui monte jusqu'au ciel. Ils veulent créer un monde dans lequel tout le monde parle la même langue. Tout le monde se ressemble. Et par ces efforts d'urbanisme, on va aller jusqu'au ciel, jusque là où est Dieu. Et nous voyons que Dieu n'accepte pas cela. Allons, descendons, brouillons ici les langues qui ne s'entendent plus les uns les autres. On pourrait résumer l'histoire de l'humanité là. Qui ne s'entend plus les uns les autres. Et de là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Et ainsi, nous avons un monde où les peuples sont dispersés, séparés, ne se comprennent pas, ne s'entendent pas. Autrement dit, suite à la chute, les hommes sont incapables de vivre ensemble. Les familles de la terre sont dispersées, séparées. C'est un monde qui a besoin de guérison, c'est un monde qui a besoin de réconciliation. Voici le cadre pour la mission de Dieu. Création, chute, un monde qui a besoin d'être guéri dans tous ses aspects. Et Dieu n'accepte pas ce monde brisé. Dieu aime ce monde brisé. Il a tant aimé ce monde brisé. Et le projet de réconciliation se met en place de manière concrète juste après le récit de la tour de Babel. Après Genèse 11, il y a l'appel d'Abraham. Et l'appel d'Abraham est la réponse de Dieu à la chute et à toutes ses conséquences. C'est ici que le projet de Dieu commence à prendre forme dans l'histoire concrète de l'humanité. Le Seigneur dit à Abraham, « Pars de ton pays, de ta famille, de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation. » On a besoin d'un autre vivre ensemble. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom, sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Qui te bafouera, je le maudirai. Et puis, cette phrase au cœur du projet de Dieu. En toi, Abraham, seront bénies toutes les familles de la terre. toutes les familles de la terre, c'est Babel. Ce sont les familles, les peuples dispersés qui ne s'entendent pas. Dieu appelle Abraham et Sarah pour former un peuple qui sera en bénédiction pour un monde qui vit Babel. Le projet de Dieu consiste à créer un peuple qui apporte la bénédiction aux nations. Quand vous lisez le mot « nation » dans le Nouveau Testament, pensez aux familles et aux peuples dispersés à Babel. Et justement, Matthieu 28, que nous avons cité pour commencer, dit justement « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». C'est une référence au projet d'Abraham, c'est une référence à la situation de Babel. C'est déjà dans l'ordre missionnaire. Et si on avait le temps, on traverserait tout l'Ancien Testament, évidemment, rassurez-vous, on ne va pas le faire. Mais trop souvent, le peuple oublie le côté universel de sa mission. Un très bon exemple serait le livre de Jonas. Appelé à aller vers un peuple ennemi. Et il ne veut pas y aller, parce qu'il n'aime pas ces gens. Il ne veut pas aller parce qu'il craint qu'ils vont se repentir et Dieu va les sauver, ce qui arrive. Et Jonas dit, mais je savais que tu étais un Dieu miséricordieux. C'est pour ça que je ne voulais pas aller. Et là, il y a tout le dilemme du peuple dans l'Ancien Testament, mais aussi parfois dans l'histoire de l'Église. Quand l'élection est prise comme privilège et non pas comme mission, on est à côté du projet de Dieu. On pourrait citer les prophètes, Ésaïe en particulier, quand il parle du serviteur de Dieu, le serviteur qui préfigure le Messie. Ainsi, Ésaïe 42, 5, ainsi parle Dieu le Seigneur qui a créé les cieux, qui les a étendus. Ésaïe parle souvent de la création pour nous rappeler que le projet de Dieu vise cette création. Ainsi parle Dieu. Et puis c'est moi le Seigneur qui je t'ai appelé. Il parle à ce serviteur. Je t'ai appelé selon la justice. Je t'ai tenu par la main. Je t'ai mis en réserve et je t'ai destiné à être l'alliance du peuple, à être la lumière des nations. À ouvrir les yeux aveuglés, à tirer du cachot le prisonnier de la maison d'arrêt les habitants des ténèbres. Et donc, en réponse à un monde brisé par la chute, Dieu veut guérir, Dieu veut restaurer. Et donc, c'est un projet vaste, énorme, et concerne tous les aspects de la création. Il a plu à Dieu de faire habiter en Christ toute la plénitude et de tout réconcilier. Et sur la terre et dans les cieux. Et Paul affirme clairement que c'est en Christ que le projet de réconciliation prendra sa forme définitive. Et plus je comprends l'écriture dans ce texte, plus je remarque que tout le Nouveau Testament tourne autour de cette affaire. Dès les premières lignes du Nouveau Testament, pendant ma lecture biblique, je sautais toujours les généalogies. Mais pourquoi le Nouveau Testament commence avec une généalogie? Ce n'est pas un texte passionnant, mais pourquoi? C'est fondamental, parce que Matthieu veut inscrire le Christ dans l'histoire de Dieu, de l'Ancien Testament. Et donc, Jésus est fils de David et fils d'Abraham. Jésus entre dans le projet d'Abraham. Et Luc, il va encore plus loin. Jésus est fils de David. Jésus est fils d'Abraham. Jésus est fils d'Adam. C'est un projet pour l'humanité entière. Et donc, nous ne pouvons pas comprendre Jésus en dehors de ce grand projet de réconciliation, en dehors de la dispersion des peuples à Babel, en dehors de la promesse à Abraham de bénir toute toutes les familles de la terre. Et puis, il y a un point important. L'accomplissement prend forme au sein d'une communauté nouvelle. Dès Abraham, pour bénir tous les peuples, Dieu met en marche son peuple. Peuple avec lequel il fait alliance. Et avec la nouvelle alliance en Christ, ce peuple s'appelle désormais Église. Et dès le jour de la Pentecôte, la bénédiction commence à devenir visible. Quand l'Esprit Saint descend, on voit un début du renversement de la tour de Babel. Qu'est-ce qui arrive ? Vous avez des Juifs de la diaspora, des Juifs qui parlent des langues différentes, donc des gens qui ne se comprennent pas. Et qu'est-ce qui arrive ? Comment se fait-il que chacun de nous les entend dans sa langue maternelle ? Avec le Saint-Esprit, on commence à se comprendre. Il y a un début de réconciliation. Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. L'Esprit commence à renverser notre incapacité de nous entendre les uns avec les autres. C'est le contrat de Babel. Se comprendre, c'est un début de réconciliation. Mais dans ce cas précis, acte 2, il s'agit de Juifs qui parlent des langues différentes, mais ça va changer très rapidement. Bientôt, le message va commencer à atteindre les nations, les peuples. Et attention, dans le Nouveau Testament, dans la Bible, nation, ce n'est pas une entité politique. En grec, c'est ethné, les ethnologies, ce sont les peuples. Très rapidement, prenons l'exemple de Pierre et Corneille. Pierre ne peut pas imaginer aller manger avec ce païen Corneille. C'est impossible. Comme vous le savez, c'est un crime pour un juif que d'avoir des relations suivies ou même quelques contacts avec un étranger. Je ne m'envoie pas chez lui, Seigneur. Et surtout, ne me demande pas de manger ce qu'il mange. Prends Pierre et mange. Je ne peux pas, Seigneur. Je ne peux pas manger ce qu'il mange. Je ne peux pas aller chez lui. Je ne peux pas me mettre à table avec lui. Et puis, encore une fois, l'Esprit Saint arrive. Et que dit Pierre ? Je me rends compte en vérité que Dieu est impartial. Dieu, il aime tout le monde. Et qu'en toute nation, quiconque le craint et pratique la justice trouve accueil auprès de lui. Son message, il a envoyé aux Israélites. C'est là qu'il a commencé. La bonne nouvelle de la paix en Jésus-Christ. Lui qui est le Seigneur de tous les hommes. La bonne nouvelle de la paix, ici c'est la paix avec Dieu, mais la paix entre Pierre et Corneille. Maintenant, ils peuvent se mettre à table. Hein, vous savez, on ne mange pas avec n'importe qui. Quand on est en conflit, manger avec quelqu'un avec qui on est en conflit, ce n'est pas si évident que ça. Et puis je prends un deuxième exemple avec Pierre, cette fois à Antioche, dans l'épître aux Galates. Et là, Paul, il n'est pas content avec Pierre. Lorsque Céphas vint à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement, car il s'était mis dans un tort. Qu'est-ce qui est arrivé ? Ben, avant l'arrivée de certains de Jérusalem, il prenait ses repas avec les chrétiens d'origine païenne. Ce qu'il a appris en allant chez Corneille. Mais puis arrivent certains, et il dit, mais zut alors, ils vont me critiquer, je ne peux plus manger avec ces gens-là. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à ses faces devant tout le monde, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la juive, comment tu peux contraindre les païens à se comporter en juif ?» Tu manges avec eux, et maintenant tu veux demander qu'ils se fassent circoncire et qu'ils mangent comme toi. Mais non, dans l'Église, on est autour d'une même table, non pas par la circoncision, mais par la foi. Et on retrouve ce débat dans l'épître aux Romains, dans l'épître aux Galates, dans l'épître aux Éphésiens. Et pour contrer cette logique, Paul remonte toujours à Abraham, toujours. Si vous lisez les épîtres aux Romains ou à Galates, Abraham, il est là au cœur de ce que Paul veut dire. Romains 4, 3. Paul est en train de discourir sur la justification par la foi. En effet, que dit l'Écriture ? Abraham eut foi en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Donc Abraham, exemple de la justification par la foi. Mais quelle est la foi d'Abraham ? De quoi s'agit-il ? Ici, Paul cite Genèse 15 et c'est un texte clé. Et Abraham commence à douter. « Seigneur, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Tu ne m'as pas donné de descendant, Seigneur. Tu avais promis. Mais qu'est-ce qui arrive ? » Et ensuite, Dieu va faire alliance, il va réitérer la promesse. Contemple donc le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter, telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur. C'est la foi dans la promesse, dans la promesse de ce grand projet. Et la grande question pour Paul dans le Nouveau Testament, dans ses épîtres, c'est qui est la véritable descendance d'Abraham? Comment est-ce qu'on devient enfant d'Abraham? Est-ce que c'est par la naissance, par la circoncision, parce qu'on mange, on mange pas de porc, parce qu'on observe le sabbat de manière rigoureuse? Est-ce que c'est comme ça qu'on est enfant d'Abraham? On est dans un peuple? Ou est-ce que c'est par la foi? Est-ce que le projet de Dieu est pour tous ou pour quelques-uns? Dieu n'a pas choisi Abraham pour créer un peuple meilleur que les autres. Dieu a choisi Abraham comme réponse au problème d'Adam et de Babel. Pour Paul, Adam représente l'humanité et Christ aussi. Comme tous meurent en Adam, en Christ, tous recevront la vie. Et c'est comme ça que Dieu agit. Pour atteindre le tout, il choisit un. Pour bénir toutes les familles, Dieu choisit Abraham pour faire un peuple. Mais le un d'Abraham et le un peuple, c'est pour atteindre le tout. Comme Adam représente le tout et Christ aussi donne la possibilité à ceux qui veulent entrer dans ce projet de trouver la vie. Et en Christ, ce peuple s'étend à tous les peuples. En Christ, la promesse commence à se réaliser. Babel commence à guérir. La création commence sa guérison. Et c'est frappant. Trois fois, Romains 16, Éphésiens 3, Colossiens 1, trois fois, Paul décrit son ministère, sa mission. Et c'est toujours lié au projet de Dieu. Et c'est toujours lié aux nations. Romains 16, 25. À celui qui a le pouvoir de vous affermir sur l'évangile que j'annonce en prêchant Jésus-Christ, selon la révélation d'un mystère gardé dans le silence durant des temps éternels, mais maintenant manifesté et porté à la connaissance de tous les peuples païens. Un mystère. Ce mystère, c'est le projet de Dieu. Éphésiens 3, j'ai reçu cette grâce d'annoncer aux nations l'impénétrable richesse de Christ et de mettre en lumière comment Dieu réalise le mystère tenu caché depuis toujours. Ce mystère, ce projet. Colossiens 1, il parle du mystère tenu caché tout au long des âges et que Dieu a manifesté maintenant à ses saints. Il a voulu leur faire connaître quelles sont les richesses et la gloire de ce mystère parmi les nations. Voici le mystère, voici le plan, voici le projet de Dieu. Il est là dès l'origine, mais il a fallu que le Christ vienne, il a fallu que l'Esprit descende pour qu'on comprenne ce projet, pour qu'on voit que Dieu aime tous. Et donc le projet de Dieu comprend le salut des individus. Mais le projet est plus large. C'est la bénédiction de toutes les familles de la terre, même la guérison, la restauration, la création. Et donc, la mission comme réconciliation se comprend dans le cadre de ce grand projet. Bon, c'est une chose de dire, je vais vers des individus perdus. C'est autre chose que de dire, nous allons vers un monde brisé, cassé, que Dieu veut restaurer. La mission n'est pas conçue exactement de la même manière selon le point de départ. Et dans ce grand projet, il y a un élément communautaire très important. L'accent contemporain sur la justification ou le salut de l'individu peut nous faire oublier que Dieu a appelé Abraham pour former un peuple. Le péché conçu exclusivement en termes individuels peut nous faire oublier les conséquences relationnelles, sociales, même politiques de la chute. On ne sait pas vivre ensemble. Le vivre ensemble a besoin de guérison à tous les niveaux. Et pour cela, nous devons nous rappeler que les chrétiens, nous sommes un peuple d'alliance, peuple de la nouvelle alliance. L'existence de l'Église, communauté de l'Alliance, est fondamentale dans le projet missionnaire de réconciliation. Pour Paul, le signe missionnaire par excellence du projet de Dieu en Abraham, c'est l'Église. Et le baptême, loin d'être exclusivement un acte de témoignage individuel, ce qui devient assez souvent de nos jours, le baptême, bibliquement, nous introduit dans un peuple nouveau. Galates 3, 27. Oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire, revêtir Christ? Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Le baptême nous fait entrer dans un peuple anti-Babel, ni juif ni grec. Et puis, Paul continue, si vous appartenez au Christ, c'est donc que vous êtes la descendance de qui? D'Abraham. Communauté, ni juif ni grec, vous êtes la descendance d'Abraham. Selon la promesse, vous êtes héritier. La promesse d'Abraham, c'est de bénir toutes les familles. Et cette communauté où il n'y a ni juif ni grec, hein, ni esclave ni homme libre, ni homme ni la femme, c'est un signe concret du projet de Dieu. Et quand nous lisons ce texte, nous devons penser au monde issu de Babel. L'Église est appelée à être l'anti-Babel. Bon, nous savons que ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est notre appel. C'est un signe anti-Babel. Et Paul le dit encore de manière plus forte dans l'Épître aux Éphésiens. Dans cette communauté, il y avait deux groupes, ceux d'origine juive, ceux d'origine grecque ou païenne. Ils avaient du mal à vivre ensemble. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est lui, le Christ, qui est notre paix. De ceux qui étaient divisés, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation, la haine. Pierre connaît mur de séparation. Babel, mur de séparation. Il a voulu, à partir du juif et du païen, créer en lui un seul homme nouveau en établissant la paix. Et si vous pensez que c'est un plus ou quelque chose de facultatif, mais non, ça fait partie de ce que le Christ a accompli à la croix. Il a voulu, à partir du juif et du païen, créer en lui un seul homme nouveau, les réconcilier avec Dieu, tous les deux en un seul corps, au moyen de la croix. La croix du Christ tue la haine, dit l'apôtre Paul. Renverse, détruit le mur de l'hostilité. Et donc, dans le projet de Dieu, et pas toujours dans la réalité, l'Église, communauté de paix, de pardon, de réconciliation, est le signe concret du projet de Dieu dans ce monde. Donc la mission de réconciliation vise la création et l'existence de communautés qui vivent dans la puissance de l'Esprit ce projet de Dieu, qui vivent ce projet de manière visible devant le monde. Je n'ai pas dit de manière parfaite. Donc la mission, c'est aussi poser des signes concrets de réconciliation. Et ce ministère devrait se trouver au cœur de nos vies et de la vie de chaque communauté. Que nous soyons engagés ou non dans un projet d'implantation d'église, chaque église, là où elle est appelée à entrer dans ce projet de réconciliation. Ça fait partie de la mission de l'église. Il n'y a pas de fracture entre église d'un côté et mission de l'autre. Les deux sont profondément liés dans le projet de Dieu. Toute église, où qu'elle soit, quelle que soit sa taille, est appelée à vivre, annoncer et à poser des signes de réconciliation. C'est déjà en soi une mission. Être une communauté de réconciliation où le mur de la haine est brisé, où il n'y a ni juif, ni grec, ou ni, je ne sais pas, africain ou français, ni patron, ni ouvrier, où les relations entre hommes et femmes sont différentes et renouvelées, bah, ça fait partie de notre appel, ça fait partie de notre mission. Et en fait, on doit vivre ça devant le monde, tourné vers le monde. Ça nous fait du bien, mais on n'est pas là pour nous. Quelqu'un a dit que l'Église est la seule association dont le but de l'existence est pour les non-membres. Hein, on n'est là pas... Ça nous fait du bien, et ça devrait nous faire du bien. Vivre des moments de pardon, de réconciliation, il n'y a rien de plus fort. Mais pas entre nous, hein. Dans le monde, avec les yeux tournés vers ceux qui nous entourent. Et puis, création, chute, rédemption, terminons ici avec la notion de rédemption finale. Le projet de Dieu, je l'ai dit, est la réconciliation, la guérison d'un monde brisé, la restauration de sa création atteinte par la chute. Et Paul voit très large, Romains 8, ça m'a frappé cette semaine en préparant. La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. La création garde l'espérance, car elle aussi sera libérée de l'esclavage, de la corruption. La création tout entière gémit. Ça, c'est un peu plus large que moi, la création. C'est un peu plus large que nous. Dieu va même restaurer la création. La création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfant, dans de l'enfantement. Donc, suite à la création bonne de notre monde, la chute, le refus de Dieu a produit un monde qui a besoin de guérison, de restauration, de réconciliation sur tous les plans. Dieu a mis en œuvre son projet et il promet de le mener jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et en attendant, on fait quelque chose. En attendant, on pose des signes du monde vers lequel nous allons. La mission consiste à anticiper la fin. Dieu veut guérir les ruptures dans un monde où nous ne savons pas vivre ensemble. Dieu refuse Babel comme dernier mot et promet de guérir. Et ça, on le voit dans l'Apocalypse. Et en fait, nous avons une trajectoire qui commence dans le premier livre de l'Écriture qui traverse jusqu'à l'Apocalypse. Et cette trajectoire, elle doit être au cœur de notre vision. On le voit, je vais vous donner quelques exemples. Dans le chapitre 5 de l'Apocalypse, il est question d'un cantique de louange à l'agneau, où il est dit: « Tu es digne de recevoir le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. » Encore, la mort du Christ rachète les nations dispersées à Babel. Tu en as fait pour notre Dieu un royaume et des prêtres, et ils régneront où? Au ciel? Okay. Tu as fait pour notre Dieu un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. Où? Qu'est-ce que ça veut dire? J'y reviendrai. Notre mission anticipe l'avenir de Dieu. Et anticiper l'avenir, poser des signes, ça veut dire que l'histoire compte, ça veut dire que nos vies comptent, ça veut dire que ce que nous faisons dans la vie de tous les jours est important aux yeux de Dieu. Tout cela est appelé même à entrer dans le grand projet de Dieu. Je l'ai lu chez Jacques Ellul il y a longtemps. Nous avons commencé dans un jardin et nous finirons dans une ville. Comme Mélanie, nous avons parfois du mal à admettre cela. Alors je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, la mer n'est plus. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel d'auprès de Dieu comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et c'est un contraste énorme. Genèse 11, on essaie de construire une ville avec une tour qui monte jusqu'au ciel. Et on voit ce que ça a donné. Et dans le dernier chapitre du Nouveau Testament, nous voyons une ville qui est au ciel, qui descend. C'est le mouvement contraire. C'est pas un hasard, hein? Cette trajectoire biblique, elle est fondamentale. Et on pourrait renforcer cette analyse à longueur de journée. Et quelque part, l'idée que l'image finale du salut, c'est une ville, c'est aussi un encouragement pour nous de voir que ce que nous faisons avec nos vies, tout ce qu'on appelle activité culturelle, familiale, le travail, ça a une valeur Sinon, on retournerait au jardin. Ce que les hommes auront fait de bien sera purifié et entrera dans la ville. La ville est ouverte et la gloire des nations entrera. La gloire des nations entrera. La cité n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'illumine et son flambeau, c'est l'agneau. Les nations marcheront à sa lumière. Les nations, les peuples. Les nations marcheront à sa lumière. Les rois de la terre y apporteront leur gloire. Y a-t-il quelque chose de positif dans la vie politique de l'histoire? Apparemment que oui. Les rois de la terre apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront pas au long des jours, car en ce lieu, il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera nulle souillure, ni personne qui pratique l'abomination et mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc on voit que le dernier chapitre du Nouveau Testament nous renvoie aux origines. L'image de cette ville renvoie au jardin et à l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est le chapitre 2 de la Genèse. Et on le retrouve dans le chapitre 22 de l'Apocalypse. Et apparemment, et je ne le comprends pas, mais je ne peux que vous le dire, le travail de guérison, de restauration, de réconciliation va se poursuivre dans cette ville. Même une fois qu'elle existe. Au milieu de la place de la cité, et des deux bras du fleuve, est un arbre de vie, produisant 12 récoltes. Arbre de vie produisant 12 récoltes. Chaque mois, il donne son fruit et son feuillage sert à la guérison des nations. Ah, la boucle, elle est bouclée. De la Genèse à l'Apocalypse, il y a cette trajectoire avec une bénédiction des nations, la guérison des nations, la réconciliation d'un vivre ensemble brisé. Donc, résumons. Le projet, c'est le projet de Dieu, ce n'est pas le nôtre. La mission est sœur de Dieu, ce n'est pas notre mission. Mais Dieu veut restaurer, guérir et réconcilier sa création. Et on pourrait dire la trajectoire, c'est création, nouvelle création. Nous vivons dans un monde brisé qui a besoin d'être guéri, qui a besoin de réconciliation. Il n'y a que Dieu qui puisse le guérir. C'est son projet et en Christ, il l'accomplira. Donc c'est le projet de Dieu. Mais Dieu veut bien de nous. Dieu nous confie le ministère de la réconciliation. Dieu nous envoie. Dieu veut bien de l'humanité qu'il a créée. Et puis, troisième élément de résumé, l'existence de l'Église, communauté de l'Alliance Nouvelle, se trouve au cœur de la mission. Pour répondre à Babel, Dieu veut un peuple transformé. Un peuple qui entre dans son projet de réconciliation, qui vit de cette réconciliation et qui en pose les signes devant le monde. Chaque église qui existe déjà, chaque église qui naît, est appelée à entrer, à rester ou à revenir à ce projet s'il s'en est éloigné. Et dans son témoignage, l'Église ne renvoie jamais à elle-même, mais au Christ, au Dieu qui est à l'origine de la réconciliation. Donc quelque part, nous devons réorienter notre pensée sur le lien entre mission et Église. L'Église, bien comprise, l'Église qui entre dans son appel, est déjà une partie fondamentale de la mission de Dieu. Elle doit être, elle n'est pas le seul signe, mais elle peut et doit être celle et lumière, poser d'autres signes. On pourrait même faire entrer nos œuvres sociales, inventer des signes de guérison pour le monde, s'occuper d'handicapés, de personnes âgées, d'orphelins ou de laissés pour compte. C'est aussi des signes du monde que Dieu veut. Et donc ça a sa valeur propre. Ces signes, enfin, anticipent l'avenir que Dieu promet. Les signes sont partiels. Attention, on ne devrait pas tomber dans le perfectionnisme. Ce n'est pas pour rien que le pardon se trouve au cœur de l'Évangile. Ça veut dire qu'on va tomber, on va faillir, on va faire des bêtises, on va vivre des situations de non-réconciliation. Et peut-être la chose, une des choses les plus importantes que nous avons à apprendre est d'être des communautés de pardon. Et ça, c'est le travail de toute une vie. Ça, ce travail-là n'arrête jamais. Donc les signes sont réels, mais ils sont partiels. Et ces signes, les signes anticipent cet avenir vers lequel nous allons. Je m'arrête là. Je pense que je vous ai épargné quelques minutes. Mais... merci de votre attention. Et donc, si j'ai bien compris, on aura un moment de questions cet après-midi.